Toucher et être touché, se blottir au creux d'une épaule ou accueillir dans ses bras un ami pour le réconforter. Autant de gestes simples et silencieux du récit de nos intimités. Pourtant, le confinement nous en prive pour une durée indéterminée. Cette situation anormale va-t-elle transformer notre manière d'interagir avec l'autre? Comment la communication non-verbale peut-elle s'adapter? C'est la question que j'ai souhaité élucider en interrogeant Élodie Mielzarek, spécialiste du sujet. Alors Élodie, j'ai souhaité vous interroger aujourd'hui parce que vous êtes sémiologue, vous êtes spécialiste du langage et du body language, auteur et conférencière, et vous avez réalisé une petite vidéo sur la question du confinement et en quoi ça modifie notre communication. Vous parlez notamment de dimension de non-verbal, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet ?
Oui, l'idée c'était de pouvoir s'interroger et de comprendre quels étaient les impacts du confinement et la manière dont cela vient modifier les modalités de nos prises de parole, que ce soit vis-à-vis de nos proches ou dans un cadre professionnel. Et il se trouve qu'il y a plusieurs dimensions dans ce grand panier qu'est la communication non-verbale. Il y a notamment tout un courant qui s'intéresse à la gestuelle. Il y a ce qu'on appelle le paralinguistique, qui est plutôt la voix, le son de la voix. Alors là, c'est pas trop impacté hein, au niveau du confinement, parce que ne serait-ce que nous sommes en train de réaliser un podcast. Il y a beaucoup de choses qui passent par ce canal-là auditif. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le supraverbal et qui est plutôt lié à la reconnaissance de soi, donc plutôt la dimension symbolique, la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va se mettre en scène. Il y a aussi toute la dimension proxémique qui s'intéresse plutôt à la distance sociale et au phénomène de territorialité. Et là, effectivement, le confinement vient complètement remodifier cette dimension-là. Et puis c'est vrai que il y a la dimension aussi physiologique, les changements qu'on peut voir apparaître au niveau du corps, la dilatation des pupilles, les phéromones, le fait de rougir. Bon, ça, ce sont peut-être des choses effectivement que on perçoit beaucoup moins facilement, voire pas du tout hein, en ce qui concerne les phéromones quand on est à distance. Donc c'est tout un pan de la communication auquel on n'a plus accès. Et c'est vrai que au sein de cette dimension liée au mouvement du corps, eh bien les anglo-saxons vont même faire toute une partie sur ce qu'ils appellent haptics, qui a donné le terme apnonomie en français, et qui est cette discipline qui s'intéresse au toucher, et notamment au toucher social. Et on voit comment le fait d'être en confinement vient complètement supprimer certaines dimensions de cette communication non-verbale, ou restreindre, voire diminuer certaines autres dimensions. Et bien sûr, cela a un impact sur la manière dont on communique les uns avec les autres.
Mais oui, puisqu'en fait, nous sommes des animaux sociaux et finalement, on est privés de nos semblables. Est-ce qu'on peut instaurer une culture de la sociabilité sans la dimension du toucher et parfois même sans la dimension de la vue, puisque le masque recouvre une partie du visage?
Oui, alors c'est tout à fait juste, et j'aime beaucoup l'approche qu'a développée Dominique Volton, qui nous rappelle que informer n'est pas communiquer. Et c'est vrai que quand on prend la communication à distance, on a tendance à être, enfin, on se rend compte que la logistique digitale nous permet d'être très efficient sur ce paradigme de l'information, c'est-à-dire qu'on transmet de l'information, ça fonctionne plutôt bien, mais en revanche, on ne transmet plus cette incarnation qu'est la communication. C'est pour ça que la technologie ne peut pas tout résoudre, car informer ne suffit pas, encore faut-il incarner et donner chair à cette information. Et c'est là-dessus que le confinement ou le fait de porter un masque vient effectivement modifier, ralentir, impacter la manière dont on échange habituellement. Alors ça, c'est pour la dimension plutôt de ce qui est vu, de ce qui est entendu, mais c'est sûr qu'à l'écrit également, il va y avoir sans doute des conséquences. Et j'en profite pour souligner l'importance de multiplier les canaux d'expression, c'est-à-dire que effectivement il y a la caméra, il y a la visioconférence, et là elle est importante parce qu'elle permet malgré malgré tout de voir les corps, même si, comme on l'a vu, il y a certaines dimensions qui passent à la trappe. Mais c'est important aussi de garder l'écrit à travers les échanges mails. Et ça peut être important d'avoir d'autres types d'espaces qui seraient comme des chats ouverts où on va communiquer cette fois-ci de manière informelle par l'écrit, en s'envoyant de la ressource, etc. C'est important de multiplier les canaux, les modalités d'échange pour justement favoriser le fait d'échanger sur de l'information incarnée, ce qu'on pourrait appeler la communication au sens large.
Oui, parce que finalement, le télétravail, c'est efficace, mais ça ne remplace pas pour autant les réactions qu'on peut avoir en réunion. De la même façon, en fait, tous les apéros qui se multiplient sur Zoom, c'est peut-être finalement qu'un ersatz de convivialité. On voit bien que la technologie montre ses limites, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Oui, alors elle montre ses limites. En tous les cas, il y a des aspects qu'elle ne peut pas venir combler. Donc il y a un fantasme effectivement du tout digital qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Maintenant, rappelons tout de même que l'expression de l'intimité les réseaux sociaux à travers le digital n'est pas une nouveauté. Serge Tisseron en parlait déjà il y a quelques années. Il avait inventé le néologisme extimité pour justement parler de ce fait-là, de ce phénomène, à savoir la manière dont assez facilement on peut exposer son intimité et l'arborer sur les réseaux sociaux aux yeux de tous. Donc finalement, il n'y a pas tant le changement de paradigme ne s'effectue pas tant ici que sur le fait qu'on n'a pas le choix. Et je crois qu'il y a aussi cette dimension psychologique de ne pas avoir le choix qui est importante.
Oui, néanmoins, il y a quand même certains adeptes de la technologie qui sont beaucoup plus au fait, en fait, des réseaux. Je pense notamment peut-être aux générations un petit peu plus jeunes. Et vous avez certaines personnes qui sont quand même qui disposent pas forcément des compétences techniques que ça requiert. Est-ce que cela peut entraîner une forme de polarisation de la société, de communautarisation un petit peu plus forte entre, d'une certaine façon, les gagnants qui possèdent tous les codes et puis les perdants qui pourraient se retrouver un petit peu en marge de ces compétences techniques?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne vit pas tous le confinement et la manière dont ça vient modifier notre communication avec notre entourage de la même manière. On n'est pas du tout tous égaux. Alors c'est vrai que nous, particulièrement français, si j'ose dire particulièrement en France, on vit beaucoup dans une imagerie, un imaginaire universaliste, voire égalitariste. Je crois que dans la manière dont on vit cet événement, on n'est pas tous préparés de la même façon. Ça se joue sur différentes dimensions. Il y a une dimension qui est plutôt en lien avec celle de la personnalité. J'ai presque envie de dire la personnalité animale qui est en nous, hein, et que moi j'appelle sémiotype, que j'ai pas mal développé, c'est-à-dire la manière dont on se positionne hiérarchiquement les uns par rapport aux autres, et ce de manière instinctive. Ben c'est vrai qu'il y a des types de personnalités qui sont plutôt tournées vers le collectif, d'autres qui sont plutôt tournées vers l'individuel, et puis il y a des types de personnalités qui sont plutôt tournées vers leur sphère intérieure, qui sont plutôt introverties, et des personnalités qui sont plutôt tournées vers l'extérieur, une sorte de bulle qui est un peu plus élargie et qu'on appelle extravertie. Ben c'est sûr que quand vous êtes à la fois extravertie et tournée vers le collectif, vous pâtissez plus, entre guillemets, de la situation actuelle que nous vivons que quelqu'un qui serait plutôt d'un tempérament introverti et tourné vers des activités individuelles. Donc déjà, d'un point de vue de la personnalité, on ne vit pas les choses de la même manière. Ensuite, il y a effectivement une autre couche qui est davantage celle qu'on pourrait dire des valeurs, hein, qu'on peut appeler axiologique, voilà, une couche axiologique, une couche culturelle. Est-ce que le toucher, le contact, il est important, valorisé dans ma culture ou non? Toutes les cultures ne sont pas équivalentes à cet égard. Alors Stéphane Rosès parlerait même effectivement de l'imaginaire des peuples. Hein. Tous les peuples ne se construisent pas de la même manière par rapport à cette question du toucher, du contact social.
Je crois d'ailleurs que ce sont les travaux d'Edouard Thiel qui ont souligné un peu ça, sur la dimension culturelle.
Tout à fait, oui, tout à fait, la dimension cachée, la dimension dont je parlais tout à l'heure, qui est la dimension proxémique, donc l'analyse de la distance sociale entre les individus qui effectivement dépend aussi de cette dimension culturelle. Et puis, c'est tout à fait juste de le souligner et pertinent, il y a a le vécu individuel de la personne, son expérience, hein, ce que Hannah Arendt appelait le temps de la bios, de la biographie, et c'est sans doute là-dessus que le niveau générationnel peut se faire ressentir, effectivement, entre ceux qui ont acquis des compétences, des facilités sur l'outil digital, et puis ceux qui en sont totalement dépourvus.
Est-ce qu'on peut imaginer que si on soustrait le corps de la sphère publique, nous allons être déconnectés de notre propre corps? Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, je sais pas si j'irai jusqu'à le formuler ainsi. En tous les cas, ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement la manière dont cette dimension que j'évoquais tout à l'heure, qui est le supraverbal, c'est-à-dire toute la dimension symbolique, comment le fait qu'il y ait des rituels, le fait qu'il y ait des contraintes qui soient moins présentes sur le corps vient modifier aussi notre représentation qu'on peut avoir de nous-mêmes. Autrement dit, quand je suis obligée pour aller au travail de me maquiller, de porter des talons ou bien de mettre une cravate absolument avec le costume et que tout cela soit tiré à quatre épingles, ben c'est pas tout à fait la même chose quand je suis chez moi, que je fais une réunion de une visioconférence de travail et puis que j'ai ma chemise en haut mais que mon bas est un bas de pyjama par exemple.
Ou qu'on fait un podcast.
Ou qu'on fait un podcast, exactement. Tout à fait. Et là, c'est bien pratique. Et on voit bien comment, effectivement, petit à petit, à la longue, comment cette gestion du corps, mais j'ai presque envie de dire presque cette liberté permise au corps, qui n'est pas le cas habituellement, eh bien comment elle vient modifier la relation qu'on peut avoir nous-mêmes, et c'est certain, à long terme, modifier les relations qu'on peut avoir avec l'autre. Car si je modifie la relation que j'ai moi-même avec mon corps, j'ai forcément modifié la relation que j'ai avec l'autre.
Et en même temps, ce corps, il est omniprésent, parce que si on regarde les réseaux sociaux, on a des chorégraphies sur Instagram, on a des challenges sportifs, on a une injonction même à ne pas se laisser aller, notamment pour les femmes, évidemment. Et donc ce corps qui est invisible aux yeux de l'autre, et pourtant extrêmement présent, on a l'impression qu'il nous appartient déjà plus. Est-ce que le corps d'une entité qui n'est pas seulement physique, elle est aussi sociale?
Alors, non seulement le corps n'est pas qu'une entité physique, c'est une entité sociale et c'est aussi une entité symbolique. Et là-dessus, je crois que la théorie du cerveau mimétique, hein, telle que la développe Jean-Michel Hourlian, ou dans son livre, il a écrit effectivement le troisième cerveau, hein, dans la lignée du philosophe René Girard, je crois que ça nous renseigne beaucoup. Maintenant, il y a eu beaucoup d'avancées sur cette dimension-là. On l'a montré par imagerie cérébrale, les dimensions, les zones du cerveau qui s'activent lorsque vous regardez quelqu'un effectuer un geste et lorsque vous effectuez vous-même ce geste, ce sont les mêmes. Donc ça, c'est vrai que ça a été une découverte assez impressionnante, et je crois que c'est aussi ce qui explique le succès des réseaux sociaux et des vidéos que vous avez évoquées, c'est-à-dire que finalement c'est une manière de vivre par procuration. Moi, mon corps, je peux pas tellement le bouger, il est dans un territoire, voire une territorialité qui est tout à fait restreinte, et ben le fait de voir et d'observer sur la toile des challenges, des corps qui bougent, et ben par procuration, ça me met moi-même en mouvement quelque part. Donc c'est peut-être justement ce paradoxe, mais qui peut s'expliquer par le fait que quand je vois quelqu'un faire un geste, et ben quelque part ça active les mêmes zones du cerveau chez moi, qui explique en partie le succès de cette vidéo. Parce que finalement, le fait de visualiser un autre réaliser un challenge, bah me permet, ne serait-ce que mimétiquement et en tous les cas symboliquement, de réhabiter mon corps et de le mettre en mouvement. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est fascinant dans ce troisième cerveau.
On n'espère pas, mais si cette situation dure, est-ce qu'à terme, on pourra avoir de nouvelles formes d'interaction qui seraient plus riches pour communiquer, qui dépasseraient la simple poignée de main? Est-ce que le regard aurait plus de sens? Est-ce que les mots, le discours, notre langage se chargerait d'émotions?
C'est une excellente question. Concernant les mots et leur pouvoir, moi je ne serais pas surprise que dans les mois venir, il y ait une recrudescence ou en tous les cas un usage d'autant plus marqué et d'autant plus fort de la métaphore. C'est vrai que la métaphore, on l'associe très souvent à une figure de style. On en dit, bon, c'est une figure de rhétorique. Mais en définitive, c'est pas du tout ce qu'ont montré les dernières découvertes, notamment en psychologie et en linguistique, puisque aujourd'hui, on sait que la métaphore est un processus cognitif. Donc, ça va beaucoup plus loin que d'être une simple figure de discours. Ça n'est pas du tout une dimension ornementale, c'est une dimension cognitive qui nous permet d'appréhender notre univers. On en fait, sans s'en rendre compte, environ 9 par minute, hein, des métaphores, donc c'est énorme. Donc on en fait déjà un certain nombre, mais je crois que la situation, le fait que le digital favorise plutôt le canal de l'information au détriment du canal de la communication de manière générale, je crois que la métaphore va être une des manières de pouvoir réincarner et de pouvoir réchauffer ce discours quand il n'est que purement informatif. D'ailleurs, on dit de la métaphore qu'elle est embodied, c'est-à-dire pour les anglo-saxons, c'est-à-dire que la métaphore n'existe et n'est permise que parce qu'elle est incarnée, elle est présente dans mon corps. Autrement dit, la métaphore me permet de comprendre mon rapport au monde parce qu'elle a pour point de départ la manière dont mon corps se positionne déjà dans ce monde-là. Mmh. Le haut, le bas, la droite, la gauche. Et c'est ça qui nous permet justement de comprendre et de solliciter des paradigmes qui nous sont connus pour y mettre pour aller vers des univers qui sont davantage inconnus pour nous. La métaphore, elle fait vraiment le pont entre le connu et l'inconnu, hein. Elle nous permet vraiment de nous représenter les choses.
Et je pense à des personnes, par exemple, des personnes sourdes ou malentendantes, ou même des personnes aveugles, pour qui le toucher est essentiel. Est-ce qu'on, d'une certaine façon, on ne va pas trouver d'autres codes aussi qui nous permettraient de rentrer en contact de manière plus large? Alors, je crois qu'il existe des masques avec transparents pour les personnes qui lisent sur les lèvres, en tout cas pour les proches des personnes qui lisent sur les lèvres aussi pour pouvoir communiquer. Est-ce que les postures du corps également vont changer? Est-ce que tout ça va évoluer?
Là, ce dont on parle, et c'est un excellent exemple, hein, les masques transparents, on est plutôt sur cette dimension symbolique, c'est-à-dire tous les artefacts, tous les artifices que je peux mettre en place pour faciliter la communication. Mais tout ce qui est de l'ordre de la gestuelle, la façon dont le corps évolue dans l'espace, il y a une dimension qui est très intrinsèque, qui est très animale, et celle-ci, elle ne va pas se modifier. En revanche, ce qui va se modifier, effectivement, ce sont les codes, les rituels, c'est-à-dire la manière dont on va imposer au corps de circuler dans les espaces, la manière dont on va les confiner, la manière effectivement dont on va gérer les moments et les espaces de circulation. Donc là, effectivement, ce sont de nouveaux codes qui vont émerger. Est-ce que sur notre représentation qu'on peut avoir de nos corps, on l'a vu sur la dimension symbolique, bien sûr, il va y avoir un impact, mais nos corps, la gestuelle, la façon dont ils se micro-démangent, la façon dont effectivement je peux agiter mes mains, parce que quand j'agite mes mains, ça me permet d'activer mes neurones, tout ça ne va pas changer. Mais par contre, sur la codification, et bah, déjà on l'a vu sur la poignée de main, hein, maintenant on se fait des poignées de pied pour garder la distance entre nous, tout ce qui est de l'ordre de la codification gestuelle, oui, là il va vraisemblablement y avoir des adaptations.
En fait, on opère énormément dans la sphère personnelle, notamment parce que finalement la sphère publique, bon, les gens étaient déjà plus ou moins à distance de nous. Est-ce qu'on risque pas de voir des communautés se créer et d'avoir des relations un petit peu tribales, c'est-à-dire que je suis proche de la personne que je connaissais déjà d'une certaine façon et je n'inclus plus d'autres personnes dans mon cercle amical?
Oui, alors ça c'est un point également fort pertinent. Alors j'aime beaucoup cette notion de postmodernité, hein, développée par le sociologue Michel Maffesoli, effectivement, qui nous montre comment on vit désormais à une époque qui est le temps des tribus, comme il l'appelle. Et C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe au niveau du digital, je peux pas m'empêcher moi de penser à cet algorithme Amazon qui est hyper bien fait, mais qui en même temps fait en sorte de me proposer uniquement les choses dans les champs qu'il a identifiés comme étant ceux qui m'intéressent. Quid de la surprise? Qu'est-ce qui se passe si effectivement, ça se trouve, j'étais intéressée peut-être par un autre contenu, mais qui n'a pas identifié? En définitive, l'Internet est fait pour que ce soit un miroir. Hein. On parlait du cerveau mimétique tout à l'heure et on peut se demander jusqu'où ça n'est pas le cas dans les algorithmes tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Eh bien, potentiellement, c'est vrai que le fait de communiquer de manière digitalisée les uns avec les autres, on peut se poser la question de savoir s'il ne va pas y avoir un effet d'enfermement. Parce que c'est confortable, effectivement, je vais être au sein de ma tribu, je vais être au sein d'un groupe où les membres sont identifiés et je ne vais plus tellement me laisser surprendre par les hasards de la vie. Donc ça, c'est vrai que c'est une dimension qui peut nous interroger. À quoi vont ressembler les rencontres de demain? Moi, c'est déjà le cas avec des algorithmes Tinder, etc., hein, où je fais mes rencontres en fonction des critères que je préétablis. Là, on a l'impression que il y a une espèce de renforcement effectivement de cette dimension tribale. Alors le confinement a quand même certains avantages, disons-le. On parlait justement de la question et de la dimension du territoire et de la territorialité. Bah, il y a plus problème dans les transports en commun de gens qui entrent dans votre espace personnel, voire intime. La période de confinement permet aussi de faire quelque part du tri dans nos relations. Alors, vous voyez, c'est une drôle de manière d'envisager les choses. Hein. On est dans le tri, c'est-à-dire que c'est comme si la relation était déjà passée sur quelque chose de numérique, c'est-à-dire le numérique, la révolution numérique qui porte bien son nom. Tout est comptable, tout est matériel, tout est comptabilisé. Et voilà, en ce moment, nous avons des relations numériques et ces relations-là, effectivement, elles sont comptées, entre guillemets, et on peut faire le tri, on peut hiérarchiser entre des objets qui sont petits, d'autres qui sont encombrants, etc., etc. C'est une drôle d'époque, mais moi, en tout cas, je ne me permettrai pas de démettre de jugement moral. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais force est de constater que ça est.
Oui, il y a une idée de, effectivement, de tri, et il y a peut-être aussi une idée de lien à l'autre qui devient serviciel, c'est-à-dire qu'entre les livreurs qui vont vous livrer les biens que vous achetez sur Internet, par exemple, ou alors la caissière qui, évidemment, encaisse vos produits, et puis ce côté un peu tribal et de lien de proximité amical, peut avoir d'une certaine façon aussi des gagnants et des perdants entre ceux qui restent entre eux et puis ceux qui sont au service des autres.
C'est tout à fait juste et je crois que là-dessus il y a une modification aussi des formes de domination. Alors ce seraient des formes de domination postmoderne, hein, on pourrait les appeler comme ça. Et à mon avis, ces formes de domination postmoderne, elles ont pour ressources le temps et l'espace. C'est-à-dire que celui qui est maître de son temps et de son territoire, bah, c'est celui qui peut exercer son pouvoir sur autrui. Et à l'inverse, celui qui ne contrôle ni son temps ni son espace, parce que son corps est justement dans ces dimensions temporelles et spatiales contraintes, bah, c'est celui qui plutôt se fait dominer, quoi. Donc c'est sûr que cette forme de domination qui est à la fois psychologique et matérielle, hein, parce que psychologique c'est mental, mais matériel ça passe quand même par le corps, hein, la manière dont il est positionné dans le temps et dans l'espace, bah, c'est sûr qu'en plus cette forme de domination elle se réalise facilement à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un soit là dans la pièce pour que vous subissiez cette forme de domination.
Et donc, parfois plus à distance d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Hein. Là, ça serait naïf de croire que effectivement le contrôle ne peut s'effectuer à distance, ou presque au contraire, j'ai envie de dire, mais moi c'est parce que voilà, j'ai toute une bibliographie en tête qui est assez orwellienne, et donc forcément on voit bien comment la distance au contraire, permet le contrôle des individus.
Et puis d'une certaine façon, ça fait écho aussi à l'ouvrage de David Goddard qui montrait que les anywhere, ce sont les gens de partout qui sont capables de voyager, qui sont extrêmement mobiles et donc qui peuvent aussi travailler à distance via le télétravail. Et puis les somewhere, c'est une communauté beaucoup plus implantée localement qui joue beaucoup plus des relations individuelles avec les proches. Et avec deux façons de voir la vie un peu différente et d'interagir aussi aux autres de manière différente.
Mais voilà, imaginons dans un futur proche, hein, pas forcément lointain, donc c'est un scénario complètement fictif, mais amusons-nous à imaginer ça, qu'on reste dans des périodes de confinement, qu'on puisse plus tellement bouger, voyager comme on le souhaitait, que finalement... la circulation ne se fait pas aussi facilement, est-ce qu'il ne va pas y avoir un privilège et un avantage des gens qui vivent plutôt, non pas en périphérie des villes, mais carrément dans les espaces de ruralité? Est-ce que ce n'est pas eux justement qui vont avoir le plus d'espace? Mais effectivement, est-ce que la richesse ne va pas venir d'un rapport à la nature qui serait favorisé? Ça va être intéressant quand même d'observer comment sociologiquement il va peut-être y avoir un curseur qui va se déplacer parce que nos représentations et nos valeurs vont vraisemblablement évoluer.
Mais très bien, merci beaucoup Élodie.
Merci beaucoup Anne-Claire.